Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL.
Hé, mademoiselle, vous avez vu la lune hier soir ?
Le journal inattendu d'une actrice émouvante.
Voilà, quand la lune forme un dé, et ben c'est qu'elle croit. Voilà pourquoi la lune est une menteuse.
Le journal inattendu d'une actrice malicieuse.
Alors, ça vient ? Je vais remonter un peu ma robe.
Attention.
Oh, oui, là.
Oups.
C'est là. Oh, oui. Oh, oui.
12h30, 13h30. Une actrice consacrée.
Le César de la meilleure actrice est attribué à Isabelle Carré.
Vous ne vous êtes pas trompé.
Une actrice qui rentre dans l'histoire.
Tu as fait tout ce que tu as pu. Tu n'es pas responsable des décisions qui sont prises.
Je n'ai pas réussi à convaincre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut résister à la disparition de la France.
Alors si ce que tu dis est juste, c'est inacceptable. On ne doit pas s'y résoudre.
Mais je ne m'y résous pas.
Le journal inattendu d'Isabelle Carré, présenté par Isabelle Choquet sur RTL.
Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir sur RTL. Merci d'être la rédactrice en chef de ce journal inattendu.
C'est moi qui suis ravie.
Vous êtes à l'affiche, on vient de l'entendre, du film De Gaulle qui sort ce mercredi sur les écrans. C'est le premier biopic, comme on dit, consacré au général, dans un moment très particulier, le printemps 1940, ce moment où De Gaulle refuse la défaite, où il devient De Gaulle en quelque sorte, l'homme qui a dit non. Vous, vous êtes la femme à qui il a dit oui, Yvonne De Gaulle. On va faire connaissance avec elle et avec vous pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Comédienne tout-terrain, au cinéma, on vient de l'entendre, mais aussi au théâtre. Et justement, votre invité, c'est Yvan Calberac, qui vous a mis en scène l'an dernier dans La Dégustation. Énorme succès. On va découvrir aussi la femme engagée que vous êtes. Vous avez souhaité un reportage sur la Surfrider Foundation. C'est une association de défense des océans. Votre carrière, vos inspirations, votre playlist aussi. Il y aura plein de surprises. C'est le journal inattendu. Et le journal inattendu, ça commence par une sorte de selfie radio, l'autoportrait. Alors, qui êtes-vous, Isabelle Carré? Vous avez une minute.
Alors, il faut que je... Attendez. Oh là là, j'avais pas prévu.
C'était
tout de suite. J'ouvre mon téléphone. Alors, ça s'appelle la page blanche. Extérieurement, je ressemble à une femme d'une bonne quarantaine d'années, classique, quoique décontractée. En fait, ce sont les lunettes et mes cheveux blonds qui me donnent cet aspect un peu lisse, cet air de page blanche ou de première de la classe. Sinon, je suis habillée comme un garçon de 10 ans. Je ne sors jamais maquillée, sauf lorsque je travaille. Je porte toujours un jean et des baskets, un pull et un blouson confortable. J'ai toujours un sac sur le dos, mon cartable, dans lequel j'accumule les papiers et les gels désinfectants pour les mains. Sans aller jusqu'à penser comme Freud que le sac à main des femmes serait une représentation de leur sexe, je tiens néanmoins à vous exposer un autre point de vue, une vision plus intime. D'ores et déjà, nous pouvons sentir combien les apparences sont trompeuses. Un sac aussi bordélique dans lequel surnagent plusieurs boîtes de médicaments, savant mélange du syndrome de Diogène et d'un symptôme nosophobique, a des choses à nous dire. Si je devais dessiner mon portrait de l'intérieur, j'aurais plutôt recours à l'expressionnisme abstrait qu'au naturalisme ou qu'à l'hyperréalisme kitsch des années 70. Je garderais tout de même les couleurs de cette époque bénie, celle de mon enfance. Sur les murs, on retrouverait le rouge du théâtre, le vert pomme des montagnes basques, le jaune vif d'un jour d'été et le bleu de la mer que je peux regarder durant des heures sans me lasser. Mais très vite, la peinture se mélangerait avec une énergie telle qu'en comparaison, Megadeth, le pape du dark metal, pourrait passer pour de la musique de chambre. La musique serait d'ailleurs omniprésente, la vraie et celle des mots. Si j'ouvrais ma tête en deux, comme pour les grenouilles en cours de dissection, vous seriez submergé par les centaines de discours que j'improvise chaque jour contre l'inaction des politiques face au réchauffement climatique, contre la théorie du ruissellement eu égard aux bidonvilles autour du périphérique, contre l'indifférence au sujet des migrants. Vous seriez scotché par les lettres que j'écris à Marine Le Pen pour tenter de l'empêcher de s'enfoncer encore et toujours du côté obscur de la force. L'autre moitié de mon cerveau abrite, Dieu merci, des pensées plus positives, celles qui concernent les enfants, et s'envole pour des câlins à partager, des goûters à préparer, des vacances à organiser. Pas un portrait en creux donc, mais une sacrée accumulation. Je ne détaillerai pas les livres qui y sont stockés partout, ceux qu'on nomme livres de chevet, que j'appellerai plutôt livres de bus, de salle de bain, d'attente, de train, et même de dîner. Car contrairement aux apparences, aux idées reçues, pardon, on lit très bien en mangeant. Je vous épargnerai aussi les histoires que j'écris mentalement avant de les coucher sur du papier. Vivement ce soir donc que je vide ce trop-plein et remplisse la page blanche, trop blanche, qui, comme vous l'aurez compris, risque fort de ne pas le rester longtemps.
Alors ça, c'est de l'autoportrait. On sent que vous y avez pris du plaisir, Isabelle Carré.
Mais moi, j'adore en fait l'idée d'être un peu créatif et qu'on me demande de faire des trucs.
Bon, bah, écoutez, une minute, c'était trop court. C'était peut-être un peu plus qu'une minute, mais c'était trop court quand même. On va prendre une heure maintenant pour tenter de remplir la page blanche. Mais d'abord, l'actualité de ce samedi 29 février, branle-bas de combat face au coronavirus. Après un conseil de défense, Emmanuel Macron a présidé ce matin un conseil des ministres exceptionnel avec quelques dizaines de cas en France. Maintenant, il faut se préparer à toutes les éventualités. Le principal foyer, c'est dans l'Oise. Et on apprend ce matin que 3 soignants de l'hôpital Tenon à Paris ont été contaminés par un patient. Le palmarès des Césars, Roman Polanski est récompensé comme meilleur réalisateur pour son film J'accuse, malgré les accusations de viol. C'est un mauvais signal, dit le ministre de la Culture. En un mot, Isabelle Carré, choquant, discutable.
Oh, c'est difficile de dire en un mot. On va développer tranquillement.
On va y revenir de toute façon dans le corps de ce journal. L'actualité de ce samedi, c'est aussi le chantage aux migrants de la Turquie. Ankara menace d'ouvrir ses frontières à des milliers de réfugiés syriens qui veulent gagner l'Europe. Le temps, Patricia Charbonnier, encore bien agité. Aujourd'hui, il y aura de la pluie, il y aura du vent.
Et ça restera même très agité pendant tout le week-end et même la semaine prochaine. C'est une nouvelle tempête, en fait, qui passe sur une large moitié nord du pays. Pour cet après-midi, on a toujours 23 départements placés en vigilance orange, vent violent entre l'Île-de-France, la Bourgogne et le Grand Est, et la perturbation qui traverse le pays. Elle est très active, surtout dans sa partie nord. On a eu beaucoup de pluie tout à l'heure sur Paris et maintenant elle progresse vers les régions de l'Est, où les régions seront très arrosées entre la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de la région Rhône-Alpes. Et on a toujours de violentes rafales de vent dans l'intérieur des terres jusqu'à 100 km/h. Et puis à l'arrière de cette perturbation, attention, on va avoir beaucoup d'instabilité cet après-midi qui va arriver par les côtes de la Manche. Donc des giboulées qui seront fortes, orageuses, du grésil et toujours de fortes bourrasques de vent avec des températures qui sont plutôt douces cet après-midi. 9 degrés à Lille et Cherbourg, 11 à Paris et Limoges, 13 à Bordeaux, 15 à Montauban et jusqu'à 18 à Ajaccio.
Météo tempétueuse et préparez-vous Isabelle Carré à 13h. C'est vous qui serez notre Miss Météo, ce serait une première je crois.
Le journal inattendu sur RTL.
Le coronavirus est en train de changer notre quotidien.
Salut, tu vas bien?
Ça, par exemple, vous voyez, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, plus question de se faire la bise ou de se serrer la main. Ce sont les recommandations du ministre de la Santé. Il faut aussi réapprendre à se laver les mains, souvent, longtemps, avec application.
Finalement, j'ai raison de mettre plein de gel antibactérien dans mon sac.
Mais oui, vous aviez raison avant tout le monde, évidemment.
Oui, voilà.
Alors, on rappelle que le port du masque, en revanche, ça ne sert absolument à rien. Sauf si vous êtes déjà malade ou possiblement infecté. Selon un dernier bilan, une cinquantaine de personnes ont été contaminées par le coronavirus en France. 2 en sont mortes. Pour éviter une épidémie à grande échelle, il faut donc changer ses habitudes. Et ce n'est pas si facile, Yannick Collant.
Au milieu de la foule, sur le marché du boulevard de la Marne, Sylvaine et Karine viennent de se retrouver après avoir fini leurs emplettes. Et les dernières recommandations du ministre de la Santé les laissent un peu perplexes.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne peut pas arrêter de vivre non plus, hein.
Vous êtes serré la
on
main.
On s'est fait la bise.
Non mais parce que je la connais.
Et puis voilà, et puis on n'a pas évité les voisins qu'on a rencontrés, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Après, moi je travaille en hypermarché, je vais reprendre le boulot mardi, ça craint un peu quand même. Je suis en caisse moi, donc ça va être un peu compliqué, ouais.
Ah, moi je travaille dans une école, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux enfants de me donner pas la main? Franchement.
Juste à côté, Eric et Romain, deux commerçants, sont pris en flagrant délit de poignée de main. Tant pis pour le coronavirus.
Quand moi je regarde la télé, j'en ai déjà marre, parce qu'ils parlent seulement de ça. Heureusement, au marché, on n'y pense pas. J'ai serré la main à mon copain.
Sachant qu'une main touche tout, elle touche une poignée de porte, après c'est sûr, il y a des microbes et tout, mais bon, pour dire bonjour à son collègue, voilà.
On peut pas penser tout le temps au virus, parce que sinon, on peut aller sous la terre tout de suite. Hein.
Ne plus serrer la main, ne plus faire la bise, des petits gestes qui semblent décidément bien difficiles à appliquer.
Le reportage RTL de Yannick Collant à Strasbourg et Isabelle Carré.
Moi, j'ai proposé ça, comme ça, de se saluer, comme on fait au Cambodge. Tu mets des plis
avec les mains jointes et on s'incline. Voilà, c'est une solution. Vous aviez déjà un peu cette phobie des poignées de main, si j'ai bien compris, avant
voilà,
le coronavirus.
Voilà, déjà, donc là, rien ne s'arrange. Hein,
rien ne s'arrange. Ça vous fait peur, cette épidémie?
Oui, pour une raison très simple, c'est que j'ai des enfants qui ont des fragilités aux poumons, qui ont de l'asthme, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc, ça m'inquiète pour eux, pas tant pour moi, mais pour, voilà, et puis pour toutes les personnes fragiles, en fait, à chacun d'entre nous d'être responsable et de sentir si ça va pas, si on a de la fièvre, d'éviter les autres et de les protéger.
Une mesure de précaution élémentaire. Avec 19 cas supplémentaires en 24 heures, en tout cas, c'est clair, on a franchi un cap, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. Alors, au-delà des recommandations de bon sens dont on vient de parler, l'exécutif doit se préparer à tous les scénarios. C'est l'objet d'un conseil de défense qui vient juste de s'achever et d'un conseil des ministres exceptionnels qui débute maintenant. Vincent Derosier, vous êtes à l'Élysée pour RTL.
Oui, scène inhabituelle pour un samedi, la cour de l'Elysée envahie par les berlines ministérielles. À l'ordre du jour, deux réunions exceptionnelles, un conseil de défense élargi de 2 heures qui vient de se terminer, vous l'avez dit. Autour du président et du premier ministre Édouard Philippe, 7 membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé Olivier Véran. Ils ont pu faire comme ça un premier point d'étape. Le conseil des ministres qui vient de débuter doit mettre l'ensemble du gouvernement dans la confidence. Alors au-delà de l'image, cette journée doit permettre, d'après un conseiller, de décider de mesures d'adaptation et d'anticipation dans chaque ministère. Certains d'ailleurs n'ont pas attendu. Hein. Vous parliez d'Olivier Véran qui recommande des gestes simples comme de ne plus avoir recours à la poignée de main. À Bercy, Bruno Le Maire endosse le costume de protecteur des entreprises. Le virus sera un cas de force majeure et il y aura des aides. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle anticipe les arrêts maladie des parents. Si un enfant est confiné, il n'y aura pas de jour de carence pour les parents forcés de stopper leur activité professionnelle. D'autres mesures pourraient être décidées ce matin, par exemple dans les transports en commun. Enfin, il y a à toute cette journée une dimension politique. Le virus ne stoppe pas sa progression le week-end, confie un proche. Emmanuel Macron veut donc éviter toute critique et mobilise les troupes aujourd'hui pour montrer aux Français que tout est mis en œuvre pour les protéger.
Et si on donnait vraiment des moyens aux hôpitaux? Si on profitait de ce moment-là pour donner vraiment des moyens aux hôpitaux?
C'est peut-être le moment.
Et pas des rustines.
C'était Isabelle Carré. En première ligne précisément, vous avez raison, en première ligne dans cette épidémie de coronavirus, ce sont les médecins, plus globalement les personnels soignants. Émilie Beaujard, vous êtes à l'hôpital Tenon à Paris. C'est là qu'est hospitalisé un patient qui est aujourd'hui dans un état grave et on apprend que 3 soignants ont été testés positifs.
Oui, 3 soignants qui ont été en contact avec ce patient de 82 ans testé positif avant-hier. Le docteur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon.
3 personnels donc paramédicaux qui vont bien. Qui ont été mis en unité spécialisée. Et le fait qu'il y ait des soignants contaminés n'est pas une surprise dans la mesure où, par définition, avant d'être testé, ce patient n'était pas connu comme étant porteur du coronavirus et n'était pas d'une région à risque.
Et précision importante, aucun patient n'a été contaminé dans l'hôpital.
Alors l'organisation de cet hôpital est chamboulée. Émilie, 56 soignants sont en quarantaine.
Oui, 56, une mesure de protection mais qui impacte la chaîne de soins. Il a fallu se réorganiser, comme l'explique la chef du service des urgences, le docteur Hélène Goulet.
On a décidé d'un délestage, c'est-à-dire que nous ne recevons plus ni les pompiers ni les SMUR, mais nous continuons à prendre en charge les patients qui se présentent d'eux-mêmes aux urgences. Pour l'instant, les effectifs nous permettent d'assurer le week-end correctement et on verra la semaine prochaine pour s'organiser et faire appel éventuellement de l'intérim si nécessaire ou aux poules d'infirmières. On s'organise.
Les 5 lits ont aussi été fermés en réanimation et tous les personnels des urgences et de la réanimation travaillent désormais avec un masque.
Émilie Beaujard à l'hôpital Tenon à Paris. L'Organisation mondiale de la santé a relevé hier le niveau de la menace liée au coronavirus. Niveau très élevé, c'est le maximum. En Asie, l'épidémie s'accélère, en Corée du Sud et en Iran notamment, alors qu'elle marque le pas en Chine. En Italie, le match Juventus-Inter et 4 autres matchs sont reportés. Pendant ce temps, on en parle moins, mais l'examen de la réforme des retraites continue à l'Assemblée. Adoption ce matin de l'article 7 qui prévoit d'intégrer les régimes spéciaux dans le système universel. On parle là du régime de la SNCF, de la RATP, de l'Opéra de Paris. À lui seul, cet article concentrait 800 amendements. On marque une pause dans ce journal inattendu avec Isabelle Carré. Et dans un instant, le palmarès des Césars, Polanski récompensé forcément, ça fait du bruit.
Le journal inattendu d'Isabelle Carré, présenté par Isabelle Choquet sur RTL.
Et on revient donc sur la 45e cérémonie des Césars, marquée par le sacre de Roman Polanski, récompensé comme meilleur réalisateur pour son film J'accuse. Polanski qui est toujours considéré comme un fugitif par les États-Unis pour sa condamnation dans une affaire de viol dans les années 70. Depuis, 10 femmes l'ont accusé d'agression sexuelle, mais l'Académie a passé outre. Dans l'assistance hier soir, il y avait Adèle Haenel, celle qui a brisé la loi du silence dans le cinéma français. Et dès l'annonce de cette récompense, la comédienne s'est levée en criant « la honte ».
Vive la pédophilie,
voilà c'est ce que crie Adèle Haenel en quittant la salle, ambiance de plomb, un gros malaise parmi les invités. Pas grand monde pour défendre Roman Polanski, à part Fanny Ardant.
Je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine, je n'aime pas la condamnation. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté.
Ah, Isabelle Carré, vous arrivez à comprendre.
Alors, Ardant. Je vais essayer de faire la synthèse.
Allez, je vous écoute.
Alors, par rapport à ce film, je vous disais tout à l'heure, J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Et tu n'es jamais revenu » de Marceline Loridan, qui raconte que son père, fuyant les pogroms, s'est arrêté en France grâce à ce J'accuse d'Émile Zola. Il voulait partir aux États-Unis, il s'est arrêté. Donc ce film, ça pour vous dire que ce film est important dans ce moment de populisme et d'antisémitisme renaissant. J'imagine que vous avez dernièrement eu des journaux où vous parliez de croix gammée.
Malheureusement,
voilà, graffité sur des tombes, etc. Donc ce film a son importance, vraiment. Et ça, il faut le dire. C'est très important de dire qu'il faut le voir, ce film, pour ça, pour cette raison-là.
Mais, il y a un mais.
Mais il y a un mais. Récompenser l'équipe, récompenser même le film, pour ces raisons-là, ça a du sens. Récompenser Roman Polanski, dans la mesure où il a déjà eu des récompenses à d'autres moments et où l'on sait que c'est un grand metteur en scène. Et dans ce contexte, le récompenser, lui, ben ça questionne. Je comprends la
Vous
colère...
Vous auriez préféré qu'il soit César du meilleur film, simplement.
À la limite, oui.
C'était déjà beaucoup.
Oui, parce que le film a du sens par rapport au contexte historique qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami aussi qui a rejoué « Le monde d'hier » de Stefan Zweig. Mmh. Qu'est-ce que c'est bien de faire entendre cette parole-là en ce moment ? C'est très important. Mais le récompenser, alors là, c'est la personne qui est distinguée. Et là, moi, ça me pose problème. Je me dis, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on est en train de quel message on nous fait passer là ? Bien sûr que c'est un grand metteur en scène, mais dans ces histoires, là, Valentine Monnier, qu'est-ce qu'elle ressent ce matin ? Je pense à elle. Je pense à elle et la colère d'Adèle Hanel est une colère saine. On parle du fait que, Fanny Ardant le décrit seule et isolée. Adèle Hanel aussi est seule et isolée. Ouais. Alors je pense à Florence Darel, vous disiez qu'elle avait été la seule à témoigner, à libérer la parole. Florence Darel a témoigné au moment de l'affaire Weinstein et s'est sentie extrêmement isolée. Il se trouve que j'ai parlé beaucoup avec elle après et elle s'est sentie extrêmement isolée. Alors que dans le monde du sport, la parole s'est libérée et les gens se sont rassemblés. Alors voilà, moi j'ai envie qu'on se rassemble.
Et qu'on parle.
Et qu'on parle. Et en fait, ces
Bien
questions-là
sûr.
Sont très intéressantes.
On n'a pas fini d'en
parler, je pense. Sont passionnantes et il ne faut pas les éviter. Et il ne faut pas penser non plus que tout est dans les tout est
tout est blanc ou noir. Non, mais c'est vrai,
oui,
que c'est la difficulté.
Et tout est sur Polanski. Il ne faut pas que Polanski soit l'arbre qui cache la forêt.
Alors, figurez-vous qu'on en oublierait presque le reste du palmarès. Quand même, parlons des Misérables de Ladj Ly, qui est à la fois César du meilleur film et César du public. Ce n'est pas rien. Et puis,
oui, j'étais très heureuse. Et aussi récompense. Pour Swann Arlo. Swann Arlo a fait un discours merveilleux. Là,
justement, pour la grâce de
contre
Dieu,
la pédophilie, et c'était brillant et plein d'émotions, tel qu'il est lui.
À l'étranger, Isabelle Carré, il y a 18 000 migrants syriens actuellement aux portes de l'Europe. C'est en tout cas ce qu'affirme le président turc Recep Erdogan, qui promet de laisser ses frontières ouvertes pour leur permettre de passer. Il y a eu une première tentative hier en Grèce. 4 000 migrants qui venaient de Turquie qui ont été repoussés par Athènes avec des scènes de chaos, des chauffourées. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Très clairement, la Turquie essaye de faire pression sur l'Europe et sur l'OTAN, mais pourquoi faire ?
Il y a un accord entre la Turquie et l'Union européenne. Les Turcs doivent empêcher le départ des migrants vers l'Europe. En contrepartie, Bruxelles verse de l'argent à Ankara pour gérer les réfugiés. Ce n'est pas la première fois que le président turc fait du chantage aux migrants, mais habituellement c'est pour obtenir plus d'argent de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce que veut Recep Tayyip Erdogan, c'est un soutien politique, voire militaire de l'OTAN et de l'Europe sur la question syrienne. Parce qu'en Syrie, Erdogan soutient les groupes rebelles anti-Bachar al-Assad, alors que les Russes, eux, sont derrière le régime de Damas. Et cette semaine, la confrontation a viré à l'affrontement direct entre Turcs et Russes. Militairement, politiquement, Erdogan voit qu'il ne peut pas rivaliser avec Moscou, alors il demande de l'aide. Mais hier, l'OTAN n'a apporté qu'un timide soutien à la Turquie sans mesures concrètes. Donc le président turc continue de dire que les frontières vont rester ouvertes. La semaine prochaine, le président Erdogan doit rencontrer Vladimir Poutine à Moscou pour tenter de retrouver le chemin du dialogue avec le Kremlin, faire baisser les tensions et peut-être faire cesser le chantage aux migrants.
Brice Dugénie du service étranger d'RTL. On va marquer une pause, Isabelle Carré, dans votre journal inattendu et après, nous écouterons votre reportage inattendu.
Renseignements.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu d'Isabelle Carré, présenté par Isabelle Choquet sur RTL.
Alors, vous nous avez demandé un reportage, Isabelle Carré, un reportage sur la Surfrider
qui vous a surpris.
Oui, un peu, parce qu'on ne connaissait pas. C'est une association de défense de l'environnement qui veut mettre en valeur l'océan, le littoral, les vagues, justement. Pourquoi ce choix?
Parce que j'aime beaucoup un endroit où je vais régulièrement, le Pays Basque. Et j'ai pu constater que ces associations faisaient un grand travail. Je dis ces associations parce qu'il y en a une autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Bici aussi. Évidemment, j'ai envie de continuer à voter, mais j'avoue que j'ai plus de confiance en ce qui concerne l'écologie dans le tissu associatif et dans la faculté des associations au niveau local d'agir vraiment sur l'environnement.
Alors, pour comprendre, nous, on est allé donc aux racines de la Surfrider Foundation au Pays Basque, justement. C'est un reportage inattendu signé Denis Grandjou. Bonjour Denis.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
La Surfrider Foundation, on peut le dire, c'est une vieille histoire. Hein.
Oui, l'aventure Surfrider est née en Californie en 1995. Et en 1990, elle débute à Biarritz après la découverte d'une décharge sauvage sur la côte espagnole. Surfrider Foundation est lancée en Europe avec un tout petit groupe de passionnés. Florent Marcoux est le directeur général.
Oui, bien sûr, une poignée, 5, 10 personnes, et puis ça a assez rapidement grandi. Aujourd'hui, 30 ans après, on a 200 000 sympathisants, on intervient dans 12 pays de l'Union européenne, on a 45 salariés ici, 15 000 adhérents, donateurs. Voilà, donc la famille s'est élargie.
La fondation travaille dans un hangar aménagé tout près de la gare de Biarritz, une véritable ruche silencieuse et très concentrée devant une multitude d'ordinateurs connectés sur toute la planète.
De l'informatique, de la comptabilité, de la communication, des animateurs pédagogiques, des juristes qui sont en capacité d'aller plaider et attaquer certains pollueurs des mers, des animateurs de réseau, des experts, des géographes, des océanographes.
Bref, une armée pacifique au bord de l'Atlantique pour qui l'urgence est d'agir. Sofiane Adine, chef de projet.
C'est 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans les océans chaque année. Donc c'est aussi plus parlant en disant 256 kilos par seconde.
Depuis qu'on parle tous les deux, il y a eu plusieurs secondes écoulées et donc il y a eu déjà des centaines de kilos de plastique dans l'océan.
256 kilos par seconde, donc là c'est impressionnant. Chaque seconde c'est 256. Donc c'est pour ça, il faut vraiment s'attaquer en amont, faire évoluer les lois. C'est aussi le travail de Surfrider. Pas possible. On a beau nous le dire, mais même quand je le dis à 256 kilos par seconde, on comprend que c'est gros, mais si on les voyait, ces 256 kilos tomber chaque seconde, ça nous ferait un tout autre effet.
Et comme il était inconcevable de ne pas terminer ce reportage avec le bruit de l'océan, c'est donc sur la plage d'Ouabia, à Bidar, que je rappelle le lancement des initiatives Océanes. Ce sera le 29 mars prochain. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la Surfrider Foundation Europe. Moi, je me tais, place aux énormes vagues.
Oui, ça fait du bien de les entendre, ces vagues.
Ça fait du bien. Vous disiez pendant ce reportage, Isabelle Carré, c'est dingue.
C'est dingue, en fait. C'est bien qu'ils nous rappellent les chiffres et qu'ils nous forcent à visualiser les choses, en fait.
256 kilos voilà. De plastique chaque seconde.
Et puisqu'on est dans les dates, le 21 mai, à Biarritz, à l'hôtel, à la gare du Midi, nous donnons une représentation au profit de BC et Surfrider, une représentation de la dégustation d'Yvan Calberac.
Voilà, le message
avec
est
Bernard
passé.
Campan.
D'accord.
C'est entièrement notre... en profit, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu, ça n'ira qu'aux associations.
Eh bien oui, justement, parlons-en. Vous êtes très engagés, hein, on l'entend, très engagés pour l'environnement, pour l'enfance aussi, avec l'association Un enfant par la main. Tenez, on a une question pour vous, Isabelle Carré, question de celui qui était à votre place samedi dernier, Nicolas Chabanne. C'est le fondateur de la marque C'est qui le patron ?
Bonjour Isabelle Carré, c'est Nicolas Chabanne. Donc on s'était croisés, j'avais la chance de vous connaître il y a quelques années. Et je le sais par des amis que vous avez, que nous avons en commun, vous n'avez pas changé humainement, vous êtes toujours la même. Comment on fait quand on est aussi exposé pour garder les mêmes valeurs depuis ces 16 ans? Voilà, ma question était celle-là.
Alors,
j'ai surtout envie de lui dire bravo en fait à lui parce que quand on voit qu'il y a des marques comme Tropicana ou je sais plus quelle marque de jus d'orange qui changent et qui maintenant ne sont plus en carton mais vont au plastique, c'est-à-dire font marche arrière, quoi. On se dit, mais c'est dingue. Soi-disant parce que le consommateur préfère le plastique. Non, alors...
De moins en moins, j'ai
l'impression. De moins en moins, on n'a pas envie d'acheter du plastique. Aidez-nous, quoi. C'est les responsabilités là, des industriels sont colossales.
Allez, là aussi, le message est passé. Parlons maintenant de ce qui vous amène. De Gaulle, le film.
Il est l'heure sans honte de reconnaître notre défaite.
Et que proposez-vous, monsieur le maréchal ?
On doit s'entendre avec l'Allemagne.
Monsieur le président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons.
En langage militaire, ça s'appelle une désertion.
Je ne vous permets pas, de Gaulle !
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs.
On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison.
Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es.
et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort.
De Gaulle, réalisé par Gabriel Le Baumin avec Lambert Wilson dans le rôle du général. C'est un film historique, bien sûr, mais c'est surtout un film qui essaye de nous faire découvrir le De Gaulle intime. Nous sommes en juin 40, Pétain a signé l'armistice, De Gaulle ne s'y résout pas. C'est un moment très très spécial dans sa vie. C'est là où il réalise, comme il dit, le saut dans l'inconnu. Il entre en résistance, pour ça il part à Londres, il laisse sa femme et ses enfants. Et sa femme, eh bien c'est vous, Isabelle Carré, vous jouez Yvonne De Gaulle. C'est la première fois que vous jouez à un personnage historique, il me semble.
J'avais joué déjà il n'y a pas très très longtemps Juliette Drouet. Une autre femme derrière un grand homme, derrière Victor Hugo. Oui, j'étais très surprise qu'on me propose ce personnage, mais j'étais très 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 heureuse de participer à ce film pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un film qui rassemble et ça fait du bien en ce moment. On le disait hors antenne, il y a beaucoup de clivages et voir un film voilà qui nous embarque dans cette page d'histoire qui encore une fois nous rassemble, ça fait du bien. Ensuite, il y avait pour moi beaucoup de scènes à jouer avec une petite fille trisomique. On le sait ou on le sait pas, mais donc les De Gaulle avait un enfant trisomique qu'ils n'ont jamais voulu cacher. À cette époque-là, bon, on mettait ces enfants-là dans des asiles, ni plus ni moins. Eux ne sont jamais, n'ont jamais accepté ça. Faisaient participer Anne à leur vie sociale. Donc c'est une famille assez exemplaire et elle est assez moderne pour ça, cette Yvonne De Gaulle. Après, elle s'est investie dans la fondation Anne De Gaulle et cette fondation continue d'exister, je tiens à le dire.
Alors De Gaulle, le film, on va continuer à en parler après la pause, mais d'abord une petite pause et puis le temps de faire le point sur l'actualité de ce samedi, Isabelle Carré.
Philippe Poupon.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu d'Isabelle Carré.
13h, les titres de l'actualité.
Isabelle Choquet.
Un conseil de défense et un conseil des ministres exceptionnels ce matin face à la menace du coronavirus en France. Le principal foyer de l'épidémie, c'est dans l'Oise. Un patient a contaminé 3 soignants à l'hôpital Tenon à Paris. Une cinquantaine d'autres personnels sont placés en quarantaine. Le gouvernement martèle ses conseils de prudence au quotidien. Éviter les poignées de main et se laver les mains régulièrement. Roman Polanski, César du meilleur réalisateur malgré les accusations de viol. La comédienne Adèle Haenel a quitté la salle. Une récompense qui fait débat forcément. Le César du meilleur film va au Misérable de Ladjli. Meilleur acteur Roche Dizem, meilleure actrice Anaïs Dumoustier. L'examen de la réforme des retraites se poursuit à l'Assemblée aujourd'hui et demain. L'article 7 vient d'être adopté. C'est celui qui prévoit d'intégrer les régimes spéciaux dans le système universel de retraite par points. La météo, comme promis, c'est avec vous Isabelle Carré.
Alors j'aimerais vous dire qu'il va faire un temps sec, très froid et très beau et que le réchauffement climatique n'a pas eu lieu. Mais non. La météo pour cet après-midi, un camp encore très agité avec de la pluie et du vent, des vents qui font souffler en tempête de l'Île-de-France à la Bourgogne jusqu'au nord-est avec des pluies soutenues, des orages et même des averses de grésil près de la Manche. Les températures pour cet après-midi de 8 à 18 degrés, 8 à Brest, 9 à Lille, 11 à Paris, 12 à Biarritz, 13 à Bordeaux, 14 à Nice, 17 à Marseille, 18 à Ajaccio. Donc les responsables politiques, prenez des responsabilités maintenant, allez arrêtez le réchauffement climatique, s'il vous plaît, pour qu'on ait plus de tempêtes.
Voilà, elle passe ses petits messages, Isabelle Carré, comme ça, au fur et à mesure. Moi, j'aime bien votre météo, parce que même quand il vous dit qu'il pleut, on dirait qu'il va faire beau. C'est ce qui s'appelle être solaire, je crois. On revient à De Gaulle, le film. Vous jouez Yvonne De Gaulle, Yvonne, aux côtés du général dans les moments difficiles.
Tu dis souvent que la volonté est la première des armes.
Mais aujourd'hui, les réalités nous dominent.
Elles nous dominent, sinon nous les sont dominées. Rappelle-toi de ce que t'as écrit dans le fil de l'épée. Tu parlais de l'espérance d'Alexandre, de la fortune de César et de l'étoile de Napoléon. Tu as la certitude qu'ils avaient été mis face aux événements pour les dominer, justement. Et changer le cours des choses.
Tu connais mes écrits par cœur.
C'est toi que je connais par cœur.
Mais ces hommes étaient exceptionnels. Ce sont eux qui ont fait l'histoire et non l'inverse.
Eh bien, peut-être. Je dis bien peut-être. Que toi aussi, tu peux agir sur les événements. En fait, tu n'as pas le choix. Tu dois continuer.
Voilà, elle le pousse, elle l'encourage. On est loin de tante Yvonne, quand même, l'image qu'on a gardée, un peu mémère, comme ça, dans l'ombre de son mari.
Bah, elle a été un peu, cristallisée par la presse dans les années 60, cette image-là des années 60. Là, on traite vraiment 2 mois, en fait, mai-juin 40. Donc, en 40, elle était une femme plus jeune et moderne et pleine de courage, quoi. C'est ça que montre le film aussi. On a l'impression qu'elle l'a suivie à Londres et non, en fait, elle était seule. sur les routes avec ses trois enfants, dont la petite Anne, donc cette petite fille trisomique, qui était terrorisée par les avions qui passaient dans le ciel et que ça le faisait hurler. Donc il fallait essayer de la maîtriser pour pas se faire opérer. C'était une sacrée aventure en fin de compte. Et puis on la voit effectivement sur le quai de Brest prendre ce dernier bateau. Et là, je pense aux migrants dont vous aviez parlé tout à l'heure. Les meilleurs d'entre nous ont aussi dû à un moment donné fuir et prendre le bateau avec rien, quelques affaires, une ou deux valises et c'est tout.
Elle aussi, elle mène une bataille, c'est une résistante aussi à sa façon.
Ben oui, le film à un moment donné devait s'appeler Libre au pluriel. Et c'est le réalisateur Gabriel Le Baumin a fait la part belle à cette femme et à cette intimité. C'est-à-dire qu'on voit en fait les hommes politiques prendre des décisions dans leur bureau et les répercussions sur le peuple, sur cette débâcle, sur les gens qui n'avaient rien, qui fuyaient sous les bombes, sont eux les véritables héros.
Alors, vous avez trois enfants, hein, vous aussi. On joue mieux les mamans quand on est maman.
Bien sûr. Ceci dit, le cinéma français m'a offert, une opportunité un galop d'essai avant de devenir maman. C'était très agréable d'être maman avant de l'être au cinéma. Et ça m'a appris plein de choses. Je me souviens de Oli Lola, quand je tenais cette petite fille dans les bras, moi qui n'avais pas encore de bébé, après j'ai su, quoi, grâce à Oli Lola aussi.
Et on la connaît peu hein, quand même, Yvonne de Gaulle. Vous avez cherché à la connaître un petit peu ou pas du tout? Vous n'êtes pas ce genre d'actrice qui creuse un rôle
si,
comme ça?
Si, j'ai cherché. J'ai été très, très surprise par plein de choses. Oui, inattendue, puisqu'on est dans le journal inattendu. Très inattendue de la part de cette femme. Son engagement, par exemple, pour la pilule, la loi Neuwirth.
C'est vrai qu'on
alors qu'elle
pas
était
ça.
Très catholique, fervente, qu'elle refusait que De Gaulle reçoive des gens divorcés à l'Élysée, et en même temps elle s'investit pour la pilule.
C'est étonnant, surprenant ce rôle.
Et cet amour, en fait, c'est ce que raconte le film. C'est pas, ce sont pas des ficelles de scénariste. C'est une réalité. Cet amour était très 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 beau et très puissant.
Ils s'écrivent très belles lettres, hein, d'ailleurs.
Ils s'écrivent des lettres pendant toute la guerre. On le voit, même si ils ne savent pas si les lettres parviendront à leur destinataire, ils les envoient un peu comme des bouteilles à la mer. C'est assez poignant. Et elle, quand elle le rencontre. Pour la première fois, elle dit « ça sera lui ou personne d'autre ». Il y a chez cette femme un grand mystère. Pourquoi elle est passée comme ça entre les mailles du filet? On n'a jamais entendu sa voix, elle n'a jamais donné d'interview. Donc c'est un personnage, voilà, maintenant elle a la mienne, effectivement.
De Gaulle, donc, qui sort mercredi en salle. On poursuit ce journal inattendu, Isabelle Carré.
Tout d'abord, ce petit rosé de Provence.
Il s'appelle Préliminaire. J'ai un petit peu la tête qui tourne.
Oui.
Vous réagissez toujours comme ça quand on vous passe du Sidney Bechet?
Ça dépend combien de verres j'ai bu avant.
Et si c'est du Miles Davis?
Alors là, je réponds plus de rien.
Changement d'ambiance. Hein. Là, on est dans la comédie, la dégustation Molière 2019 de la meilleure comédie.
Ah, il y a un lien, hein, parce que Hortense aussi est très fervente catholique.
Oui,
et surprenante.
Vrai. Et rigolote. Vous donnez la réplique à Bernard Campan dans cette pièce, écrite et mise en scène par Yvan Calberac, qui est votre invité. Alors d'abord, pourquoi lui?
Parce que c'est un metteur en scène. D'ailleurs, comme Gabriel Le Baumin, je suis entourée de personnes très humaines. Et j'ai beaucoup de chance. C'était vraiment une joie de jouer cette pièce et de retrouver Bernard Campan et de jouer cette pièce tous les soirs au Théâtre de la Renaissance de janvier à juillet dernier. D'ailleurs, on va partir en tournée dans quelques semaines et je m'en réjouis vraiment de retrouver cette troupe de théâtre géniale. Mounir Amamra, Olivier Clavry, Eric...
C'est un peu une famille, hein,
Villard.
Bernard Campan, c'est le lien quand même un petit peu entre vous deux. Bonjour Yvan Calberac.
Bonjour.
Vous êtes multicarte, hein, formé comme comédien, auteur, metteur en scène au théâtre, mais aussi au cinéma, à la télévision. Vous avez révélé Cécile de France dans Irène, tout de même. Une semaine sur deux avec Mathilde Seigné, c'était vous. Il y a aussi L'étudiante et Monsieur Henri avec Claude Brasseur. Et ce fil conducteur, en fait, entre tous vos films, c'est quoi? C'est la comédie? C'est les femmes? C'est les gens?
Alors, le fil conducteur, j'ai du mal à le voir, mais sans doute, il y en a plein. C'est vrai que j'aime... Moi, j'aime faire des films dont je serai le premier spectateur. Donc, et ce que je préfère, moi, en tant que spectateur, c'est quand il y a à la fois de l'humour et de l'émotion, quand il y a ce mélange-là. Et c'est ce que j'essaie de faire, donc à la fois au cinéma et effectivement aussi au théâtre.
Il y a beaucoup aussi dans toutes tes histoires des solitudes et des gens qui cassent cette solitude et qui se rassemblent.
On
c'est ça que j'aime
peu,
dans
justement.
L'humour de Yvan, c'est que c'est vraiment un humour qui rassemble, pas un humour qui divise.
Votre dossier est retenu.
Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce.
Le destin, c'est une tartine de merde. Vous gênez pas, surtout.
J'ai pas le droit d'avoir un petit ami.
Non, personne. Faut des règles pour vivre en communauté.
Mais on serait que deux.
Ça me semble déjà énorme.
Je vais pas monter pour dire bonjour à papa.
Non, c'est pas une bonne idée.
Maintenant, j'ai plus qu'une femme dans ma vie. C'est toi.
J'aurais pas te dire ça comme ça d'ailleurs, parce que t'es ma fille et.
Tu as le moral, ton père, en ce moment.
T'as une petite mine tous les deux, hein.
Il rigole tout le temps.
Tu l'as rencontré à ton club de sport?
Non, sur internet. Eh oui, sur un site de rencontre. On a fait de la chatte.
Du chat, maman.
Voilà, ça c'est au cinéma, au théâtre, la dégustation l'an dernier, avec Isabelle Carré. C'est une comédienne facile, Isabelle Carré?
C'est, moi je suis fan, c'est une comédienne merveilleuse.
Ah oui, bah alors vous êtes objectif,
ça va voilà. Ça parce que je suis là.
Non, mais c'est vrai, elle est. Moi je connaissais bien le travail d'Isabelle, mais on a vraiment appris à se découvrir dans ce projet. Hortense, le personnage qu'elle joue dans la dégustation, a vraiment un côté un peu clown et burlesque, et en même temps un côté très émouvant, parce que c'est une femme aussi qui traverse une période pas facile dans la pièce, à ce moment-là dans l'histoire. Et qui est en désir d'enfant, qui est célibataire, voilà, effectivement, c'est l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent. Et Isabelle, franchement, elle a été au-delà de mes espérances dans la comédie, dans l'humour. Elle a un côté, quand elle veut, parce qu'elle est intense, elle est bouleversante, mais en même temps, elle peut être très, très drôle, et dans la vie aussi, d'ailleurs. Et à ce niveau-là, franchement, avec Bernard Campan, on s'est régalé, et on a joué à aller parfois encore plus loin de prévu. Et moi, j'ai adoré ça.
Elle vous regarde avec des yeux pleins d'amitié, c'est plein d'étoiles, même je pourrais dire. Cette pièce-là, elle va revenir au théâtre en septembre prochain, au théâtre de la Renaissance. Votre actualité à vous, Yvan Calberac, c'est Un amour de jeunesse avec Stéphane De Groot et Isabelle Gélinas. Là où encore vous êtes auteur, metteur en scène, vous nous faites un peu le pitch.
Alors, Un amour de jeunesse, oui, c'est au théâtre de la Renaissance en ce moment. Et c'est l'histoire d'un homme qui. Ça parle de la peur de manquer, en fait. C'est l'histoire d'un homme qui a très bien réussi dans sa vie, alors qu'il était. Il vient d'un milieu modeste. Et il est en couple avec une femme d'origine aristocratique qui, elle, est désargentée, mais elle n'a jamais manqué de rien. Et il voit rejaillir dans sa vie une femme qu'il a aimée quand il avait 20 ans, et avec laquelle il s'est marié, mais il n'en avait aucun souvenir, parce qu'en fait, ils allaient en Inde, ils fumaient un peu de drogue. Et donc, légalement, elle possède la moitié de tout ce qu'il a gagné depuis 30 ans. Mais lui, il ne l'a pas vu depuis 30 ans, elle vit en Afrique, elle fait de l'humanitaire, il n'a aucune envie de lui donner la moitié de ce qu'il a gagné.
Eh ben oui.
Donc de peur de devoir lui donner, il va faire semblant d'être pauvre, d'être quelqu'un de modeste, et il va lui jouer de la comédie avec sa compagne.
C'est un peu ce qu'on a fait de nos idéaux, quoi. C'est un peu ça la pièce.
Ça parle aussi de ça, c'est-à-dire que cette femme qui revient, elle a gardé un livre qu'il a écrit quand il était jeune, enfin des notes, où il voulait créer un nouveau monde, un monde meilleur, et tout ça, il l'a un peu mis de côté. Donc c'est l'histoire d'un homme, effectivement, qui va être remis en contact avec l'homme qu'il était à 20 ans. Comme on est à 20 ans, comme on est à 50, qu'est-ce que la vie nous change et qu'est-ce qu'on change dans notre vie, voilà.
Une farce sociale, donc, plus qu'une comédie romantique, pour le coup. Il y a quelque chose qui vous unit, tous les deux, je crois. C'est la musique et la danse. Vous avez beaucoup tourné autour de la comédie musicale, Yvan Calberac. Là, on entend la musique de Alive, qui était une espèce de fame, un peu, on peut dire, un fame à la française. C'est la musique de Yodelis qu'on entend, c'était un film avec Richard Anconina. Vous n'avez jamais eu envie de la faire chanter, Isabelle Carré?
Pas
c'est risqué.
J'y ai pas pensé.
Vive autotune.
C'est risqué, ça, je suis pas tout à fait sûre. Hein.
En commun, Tom.
Sawyer, la cour d'école.
C'est une chanson écrite par mon frère.
Oui,
effectivement, qui part de notre enfance. Mais j'avais dit à Benoît, moi, je veux bien qu'on enregistre ça. J'étais très heureuse qu'il me propose cette chanson, mais pas sur scène. Comme j'ai une forte personnalité, nous avons été plusieurs fois sur scène et j'ai eu vraiment la peur de ma vie.
Vous avez peur sur scène?
Bah, de chanter, oui, c'est vraiment, on est nu, quoi. Il y a que la voix. Et quand vous
on
avez
joue aussi, on est nu.
Oui, mais l'émotion, quand on parle, elle vous trahit pas de la même manière. Enfin, ça se traduit pas de la même façon. Quand on a beaucoup d'émotions, et moi, j'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien. Ça se traduit par des tremblements, des fausses notes.
Bon, d'ailleurs, Benoît Poelvoorde me disait la même chose. Tu étais avec toi dans
les émotifs. Émotifs,
et avec qui j'ai fait Venise n'est pas en Italie. Il me disait, oui, moi, je veux bien. Parler, jouer à la comédie, mais chanter, et pour Podium, ça a été un vrai dépassement. Chanter, oui. C'est vraiment quelque chose.
On est complètement nus, en fait.
Les émotifs anonymes.
Les émotions débordent quand on chante.
Bonsoir.
Ah, tiens, bonsoir. Asseyez-vous. Oui, c'est ridicule, mais en fait, je connais pas votre nom.
Non?
Non.
Jean-René Vanden Hugde.
Vanden?
Hugde. Vous n'êtes pas obligé de prononcer le G. Vous, j'ai lu que... Enfin, j'ai vu sur un papier officiel que vous vous appeliez de l'ange.
Angélique.
Angélique. C'est très joli, Angélique.
Vous aussi, c'est joli, Jean-Pierre Vanden Gueduche.
Non, Hugues. Yes. C'est pas Jean-Pierre, c'est Jean-René.
Ah oui. Excusez-moi. Très joli.
Voilà, les émotifs anonymes avec Benoît Poulvord.
Il s'est inspiré de moi là parce qu'il me connaît en fait, Jean-Pierre. On a un peu travaillé, pas ensemble le scénario, mais on s'est rencontrés. Il avait le projet de faire ce film. On avait déjà travaillé ensemble, d'ailleurs sur Les Migrants à Calais. Et quand il a eu ce projet, on s'est beaucoup parlé. Il sait que moi, quand je dois présenter les gens, je perds tous les noms. Et Jean-Pierre devient Jean-Michel, Jean-François, Jean-Marc. Voilà, même pour les gens que je connais très très bien.
Bon, aujourd'hui c'est facile. Vous, c'est Isabelle. Moi, c'est Isabelle aussi. Isabelle Carré est avec nous sur RTL, c'est son journal inattendu. Une pause et on poursuit la conversation.
Bonjour Jérôme.
Lidl.fr. Isabelle Carré est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin.
Enfance, en voiture,
c'est une petite Madeleine de
kilomètres et des kilomètres.
Il était fatigant le chemin de papa.
Bah oui, parce qu'on traversait toute la France pour aller dans une R16 bleue. On allait en Provence, ça mettait 6-7 heures. Donc c'était, voilà, j'avais cette chanson-là dans la tête, ouais.
Alors, vous l'évoquiez, votre père, dans votre premier roman paru il y a 2 ans, Les Rêveurs.
Oui.
Coup d'essai, coup de maître. Hein, un grand
c'est
succès
gentil,
public, critique, grand prix RTL Lire, d'ailleurs.
Oui, j'étais très... Merci, j'ai encore beaucoup de reconnaissance pour ce prix.
Mais nous aussi. Vous avez raconté dans ce livre votre enfance cabossée, vos parents un peu atypiques, cette chute qui vous a brisé les jambes à 3 ans, la dépression à l'adolescence, l'hôpital psychiatrique, c'est pas rien, tout ça. Mm-hmm. Et vous écoutiez ça en boucle.
How fragile we are. How fragile we are.
Bizarrement, ça finit par être rassurant. Si tout le monde est si fragile, on doit pouvoir faire avec. Mais comment? Comment font les gens? Pourquoi personne n'a encore écrit une vraie vie mode d'emploi?
C'est une lecture de votre livre et oui. Finalement vous l'avez trouvé, le mode d'emploi, grâce à un film à la télé.
Que savez-vous du plaisir? Dans mon histoire, je suis perdue. Je rêve que je cours après un homme qui s'éloigne.
Le film s'appelle « Une femme à sa fenêtre ». Et si c'était la solution? S'inscrire dans un cours de théâtre, accepter que ça déborde. L'émotion est pénible au quotidien, embarrassante. Alors que sur un grand écran, les spectateurs considéreraient peut-être sa fragilité comme un supplément d'âme.
Romy Schneider dans Une femme à sa fenêtre qui vous a donné envie de faire du théâtre, ça vous a sauvé en quelque sorte.
Oui.
Ça reste votre modèle absolu, c'est un destin tragique quand même, Romy Schneider.
Oui, mais la générosité de cette femme me bouleverse. Sa générosité dans chaque film, dans chaque rôle, la qualité, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de son émotion, en fait, c'est un don, quoi. Et j'ai beaucoup de reconnaissance, je parlais de reconnaissance, j'ai beaucoup de reconnaissance pour... les actrices sont des sœurs pour moi, quoi. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup les acteurs aussi, mais c'est vers elles que je m'identifie.
Forcément.
Et voilà, et quand je vois ce que ça comporte, en fait, de don, ce qu'elle nous a transmis, ce qu'elle a libéré pour nous, quoi. Parce que ça remplit son office, c'est une vraie catharsis. On n'a pas le droit de, quand je parle d'émotion, on n'a pas le droit de pleurer dans un bureau. On n'a pas le droit de... Il faut toujours assurer. C'est pour ça qu'on parlait des émotifs anonymes. Peut-être que les émotifs anonymes ont eu un tel succès à cause de ça. C'est qu'il faut toujours assurer, pas montrer ses émotions, être fort, on est coaché, etc. Et si le charme venait de nos fragilités?
C'est un petit peu ce que vous écrivez, effectivement. Mmh. C'est ce qu'on ressent. Vous disiez à l'époque, il y a 2 ans, je fais du cinéma pour qu'on me rencontre. Je n'ai jamais trouvé simple de faire connaissance. C'est toujours vrai, ça, cette timidité, vous l'avez toujours?
Oui, j'ai toujours cette timidité. Et c'est, voilà, Yvan Calberac, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce au théâtre. J'aurais jamais été vers lui dans d'autres circonstances. C'est parce qu'on a travaillé ensemble. Voilà, c'est vrai que le plateau, en fait, c'est l'endroit où je me sens le plus, où je respire le mieux. Comme dans, ça me fait penser à ce livre, Nos débuts dans la vue de Modiano. Mm-hmm. Il dit, c'est pas la peine d'aller à la mer, c'est pas la peine d'aller à la montagne. Finalement, l'endroit où on respire le mieux, c'est sur un plateau de théâtre.
Moi, ça m'évoque un petit peu à bout de souffle. Hein, si vous n'avez pas la mer,
oui,
mais bon, c'est autre chose. Après le succès des Rêveurs, bon, vous n'aviez pas de raison d'en rester là. Il y a un deuxième roman qui est en préparation, qui va sortir en septembre, un troisième,
oui,
même, qui est déjà un petit peu sur votre bureau.
Oui.
En fait, vous avez toujours écrit, vous ne faites que continuer.
Oui, j'ai un petit peu arrêté vers l'âge de 30 ans parce que j'avais des rôles qui me permettaient de m'exprimer. J'avais ce moyen d'expression. Pour moi, jouer, c'est pas paraître ou monter des tapis rouges ou recevoir des prix. c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. Le vrai gâteau, c'est quoi? C'est d'avoir un moyen d'expression, d'avoir la chance, le privilège d'avoir un moyen d'expression. Et voilà, et je sais pas quoi dire d'autre.
Mais c'est pas grave, vous écrivez beaucoup, ça c'est certain. Vous avez beaucoup écrit dans votre vie, maintenant vous publiez. Vous lisez beaucoup aussi, hein. Vous avez un rapport très fusionnel, je crois, avec les livres. Vous en parlez un peu comme des amis. Vous mettez toujours certains livres sous votre oreiller, comme ça, pour que ça infuse.
Ça, je faisais ça quand j'étais plus jeune et que j'avais des terreurs nocturnes. Et j'imaginais que le livre était comme une espèce de filtre qui allait me donner sa force. Ça allait infuser en moi.
Moi, j'aime bien l'idée. C'est un petit peu talisman quand
oui.
même.
And dress yourself like a part-time. C'est une musique que j'aime bien écouter en ce moment. C'est vrai que je pourrais pas me passer de musique. Je pourrais pas me passer des mots, mais je pourrais pas non plus me passer de musique. Parce que la musique, en fait, elle nous ressent tout de suite là où il faut être, je sais pas. Puis elle nous met dans une bulle et en même temps, elle nous parle d'amour. Elle infuse aussi là, à sa façon.
Il y a beaucoup de choses dans votre vie, Isabelle Carré. Hein. Il y a de l'écriture, il y a des livres, il y a du cinéma, du théâtre, de la musique, de la danse aussi. C'était votre première passion, je crois, la danse.
Oui, alors la danse classique. Maintenant, c'est plutôt la danse africaine. J'adore la danse africaine.
Vous faites de la danse africaine ?
Oui, parce que la danse africaine, en fait, c'est le contraire de la danse classique. Comme quoi, on change. J'aimais tellement le cadre rigide de la danse classique. Et j'aime tellement aujourd'hui le pas de cadre de la danse africaine. Il y a juste à être dans le rythme et à se laisser aller.
Isabelle Carré est avec nous sur RTL. C'est son journal inattendu. Une pause et une surprise.
Le journal inattendu sur RTL.
Je vous...
Le journal inattendu d'Isabelle Carré, présenté par Isabelle Choquet sur RTL.
Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie.
Pour vous surtout, mais pourquoi pas pour nous deux? C'est ce qui vous a donné votre prénom, je crois.
Oui, absolument. Mon père a toujours voulu avoir une fille qui s'appellerait Isabelle grâce à cette chanson. Ouf, il en a eu une.
Il y ressemble une fille. On a quelqu'un pour vous au téléphone, Isabelle Carré. Allô?
Bonjour.
Allô, allô,
oui,
bonjour.
Bonjour.
Bonjour qui?
Bonjour Isabelle. Est-ce que tu me reconnais? J'ai un rhume carabiné, mais est-ce que tu me reconnais?
Alors avec le rhume, non.
Ben évidemment, voilà, j'en étais sûre, je suis désolée, c'est Léa.
Oh ma petite Léa d'amour.
Voilà. Léa Drucker, c'est l'une de vos grandes copines, c'est votre sœur, voilà.
Oh quelle joie de t'entendre, merci.
Mais écoute, quelle joie de t'entendre aussi, ça me fait très plaisir, je suis désolée de ne pas avoir ma voix, la voix que tu connais, tu m'aurais reconnue tout de suite, mais là, voilà.
Une petite pastille pour Léa Drucker, au secours, au secours. Bon, c'est donc une grande amitié entre vous, qui vient d'où?
Alors qui vient d'une pièce de théâtre qu'on a jouée ensemble, d'Emmanuel Marie et de la direction de Zabou Bretman. Et on a quand même joué pendant, oui, plus de 5-6 mois au théâtre de la Madeleine. Et nous avons tourné ensemble pendant 4 mois à peu près dans toute la France. Et avec Léa, il n'y a jamais une ombre au tableau. Il n'y a jamais un flagrant délit d'égoïsme ou de, je sais pas quoi, de grain de sable dans la machine. Tout est tellement facile, humain, joyeux, heureux. C'est une femme extraordinaire. Voilà, j'ai pas de mots. D'abord, c'est une actrice merveilleuse. Elle a un regard, moi, qui me bouleverse. Son jeu est tellement simple, naturel et bouleversant et poignant. Voilà. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est voilà, Léa Drucker.
Eh ben merci. Je suis guérie. Ça y est, ça va. Je suis guérie.
Vous avez bien fait d'appeler, hein, Léa Drucker.
Merci, non, mais je suis ravie. C'est gentil de dire ça. C'est vrai qu'avec Isabelle, on a partagé cette aventure qui était très particulière et très, très belle et douloureuse à la fois.
Oui.
Et c'est vrai que quand on passe pendant des mois comme ça sur scène à deux.
Douloureuse parce que Emmanuel Marie est décédé pendant la pièce et c'était
cancer,
notre ami.
Précisément, oui.
Et on jouait en fait ce qu'on vivait. Donc c'était très, très, très bouleversant.
Oui, on avait assez peu de distance avec tout ça et c'était difficile, mais moi je me sentais en sécurité toujours parce que Isabelle était là. C'est-à-dire que Isabelle, sous ses, sous ses côtés. Elle est hypersensible, mais parfois très délicate et fragile, et quelqu'un de très puissant aussi, et de très sûr et de très solide. Donc ça a été une de mes plus belles expériences, en tout cas de d'amitié et de travail, et comme quoi voilà, quand les deux sont reliés, c'est formidable, c'est inoubliable.
Eh ben merci Léa Drucker hein, d'avoir passé un petit coup de fil, d'avoir plutôt appelé Isabelle Carré. Hein. Votre actualité à vous, c'est au cinéma, c'est le film C'est la vie de Julien Rambaldi, ça sortira le 29 avril.
Et puis j'adore les choix de Léa Drucker, elle fait des choix incroyables. C'est toujours des personnages super humains, c'est, moi je suis fan quoi.
Bah écoutez, deux fans donc, deux fans
trois,
à l'antenne,
trois
avec Yvan Kerberak aussi.
Ah ouais, dans Juste et la Garde, elle était exceptionnelle.
On est d'accord.
Merci beaucoup Léa Drucker et merci Isabelle Carré. De Gaulle au cinéma, c'est mercredi avec Lambert Wilson.
Et je voudrais juste ajouter une chose, allez voir la pièce d'Yvan au Théâtre de la Renaissance parce que vraiment on rit quoi.
Un amour
les comédies
jeunesse.
Où on vous arrache un petit rire de temps en temps, voilà ça existe, là on rit vraiment quoi.
Et allez voir De Gaulle, je l'ai vu, c'est un très beau film.
Allez voir De Gaulle mercredi. La semaine prochaine, vous retrouverez Vincent Parisot et c'est Patrick Poivre d'Arvor qui sera le rédacteur en chef du journal Inattendu. Moi je vous retrouve à 18h pour les infos, dans un instant, Confidentiel avec Jean-Alphonse Richard, Confidentiel, Barry White, bel après-midi sur RTL.
Merci de nous avoir offert la parole.
RTL, le journal Inattendu.